Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Adoption hier par la conférence des présidents des groupes parlementaires et commissions permanentes de l'Assemblée nationale de l'avant-projet du calendrier de la session de mars. On signale tout de même des divergences persistantes entre le FCC et l'Union Sacrée. Michel Kifindangoy viendra nous en parler dans ce journal. Carence des médecins signalée au centre de santé de référence de Djoa dans le territoire de Bolomba, 255 km de Mbandaka. Le relais communautaire de Djoa plaide auprès des autorités compétentes pour l'affectation d'un ou de deux autres médecins du gouvernement dans ce centre de santé. Il n'est pas question de dire que tout est terminé au 30 juin 2021, date de la fermeture du bureau de Kananga par la MONUSCO. Cette déclaration est de la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, qui a bouclé jeudi une visite de 24 heures dans la ville de Kananga. Elle est notre invitée. Bienvenue à tous. La conférence des présidents des groupes parlementaires et commissions permanentes de l'Assemblée nationale a adopté hier mercredi l'avant-projet du calendrier de la session de mars sous des divergences persistantes entre le FCC et l'Union Sacrée. Les divergences portent notamment sur la reconfiguration des groupes parlementaires après basculement de la majorité parlementaire. Pendant ce temps, 10 jours après l'ouverture solennelle de la session de mars, aucune plénière n'a été convoquée alors qu'au regard de l'abondance des matières prioritaires à examiner, les 3 mois de cette session s'avèrent insuffisants. Michel Kifindangoy.
La non-tenue des plénières à l'Assemblée nationale témoigne de l'incapacité de l'Union Sacrée de travailler efficacement pour l'amélioration des conditions de vie de la population, dénonce le député Didi Manara du PPRD.
Est-ce que c'est le FCC qui bloque encore une fois la tenue des plénières? Ceux qui sont restés au FCC, nous sommes plus ou moins 150. Au regard de l'article 54 de notre règlement intérieur, nous devons encore garder 5 groupes parlementaires sur les 16. C'est ça, nous étions très surpris à apprendre qu'au niveau du bureau, ils disent que nous n'avons gardé. Mais c'est impensable.
Pour Tony Mouaba d'élu d'EPES, au regard du basculement de la majorité parlementaire, l'Assemblée nationale devrait être profondément restructurée avant d'aborder l'examen des matières prioritaires.
Comment voulez-vous que le travail commence alors que la nouvelle configuration de la majorité parlementaire implique qu'il y ait une réorganisation au niveau des commissions, au niveau des groupes parlementaires? Alors ce qui se passe n'a rien à voir avec de l'incompétence. Donc c'est tout à fait normal que la logique indique quels sont les groupes parlementaires qui appartiennent désormais au
départ FCC. En croire certaines sources parlementaires, les bureaux de l'Assemblée nationale n'arrivent pas à convoquer les plénières suite au manque des frais de fonctionnement depuis janvier.
Le bureau de l'Assemblée nationale justifie la non-convocation des plénières par le décès et l'organisation des obsèques du député national Henri Thomas Lokondo. Contacté par Radio Okapi, le rapporteur de l'Assemblée nationale reconnaît tout de même les divergences entre le FCC et l'Union Sacrée sur notamment la répartition prochaine des groupes parlementaires. Pour Joseph Lembi, il faut convoquer une plénière à la fin de cette semaine ou en début de la semaine prochaine. Joseph Lembi au micro de Michel Kifindangoy.
L'ouverture de la session a eu lieu le 15, quelques jours après que nous avons perdu des collègues Thomas Lokondo. Lorsqu'on a un deuil, on abandonne tout, on s'occupe d'abord de l'enterrement pour prévoquer la conférence des présidents. S'est réunie hier pour adopter le calendrier des matières pouvant faire l'objet de nos débats et nos délibérations au cours de la session. Quant aux questions des groupes parlementaires et des commissions, on n'est pas bloqué. Il est évident de constater qu'il y a eu requalification de la majorité. La majorité parlementaire compte 13 groupes parlementaires et l'opposition compte 3. Mais nos collègues de l'opposition n'ont pas été d'accord avec nous. Ils ont dit qu'il restait 5 groupes parlementaires. Les échanges se poursuivent et demain, on va trancher. L'Assemblée ne peut pas refuser de travailler des CG si elle n'est pas payée, non. Qu'on soit payé ou pas, les sacrifices d'abord.
13 personnes arrêtées à Beni depuis plus d'une semaine, dont les enquêtes sur le trafic des munitions de guerre dans cette région ont été transférées ce jeudi matin à la prison de Ndolo à Kinshasa via Goma, selon des sources judiciaires et sécuritaires. Malgré leur transfèrement à Kinshasa, l'auditorat supérieur près la cour militaire opérationnelle du Nord Kivu, basée à Beni, poursuit ses enquêtes. Martial Papi Mukeba pour les détails.
Les personnes transférées à la prison d'Indolo à Kinshasa sont 3 officiers supérieurs, 2 officiers subalternes, 3 soldats de la 32e brigade des unités de réaction rapide des FRDC, les conservateurs de la sous-station de l'ICCN de Mutsora en secteur de Rwenzori, 3 éco-gardes et un civil. Selon des sources judiciaires, avant leur transfert à Kinshasa, ils ont été inculpés de trafic de munitions de guerre dans la région de Beni par la justice militaire. D'après la même source, les enquêtes se poursuivent toujours pour déterminer la destination finale de ces munitions. Toutefois, selon des sources sécuritaires, l'un des militaires arrêtés par rapport à ces dossiers a avoué lors de son audition que ces munitions étaient destinées au ravitaillement des ADF et des groupes Mai Mai dans les secteurs de Rwenzori à Beni et des groupes armés à Tchabi en Ituri. C'est la première fois que des officiers et soldats FRDC engagés dans les opérations contre l'ADF à Beni sont arrêtés pour ravitaillement présumé de ces groupes armés. Mais Beni, Martial Papimukiba, Radio Okapi.
La chef de la MONUSCO assure que les agences et programmes des Nations Unies travaillent déjà au Kasaï sur les projets pour répondre aux besoins qui se présentent dans la région. Ces projets vont être amplifiés pour que la population en ressente l'impact après le retrait de la mission onusienne, annonce Bintou Keïta, qui a bouclé aujourd'hui une visite de 24 heures dans la ville de Kananga. Écoutez ses explications au micro de Joël Bofengo.
Les agences et programmes sont déjà depuis l'année dernière en discussion avec les collègues de la MONUSCO, mais aussi avec des partenaires pour voir comment les projets qui ont été mis en place à petite échelle avec les fonds de consolidation de la paix, par exemple, sur l'assistance aux victimes, mais qu'il faut porter à l'échelle de manière à ce que véritablement la population sente une différence de taille sur le résultat et l'impact que ces projets ont dans l'accès aux services sociaux de base, un accès amélioré à la justice. Et il y a une attente particulière par rapport à la justice transitionnelle. Et il y a les besoins particuliers en ce qui concerne la sécurité alimentaire, l'amélioration de la nutrition, la santé, l'éducation, enfin tous ces aspects. Les agences et programmes travaillent dessus, mais on va avoir besoin des donateurs pour continuer à appuyer tous ces projets et ces programmes.
En séjour depuis quelques heures à Kalemie, dans la province du Tanganyika, la chef de la MONUSCO a rencontré à la mi-journée de ce jeudi les autorités de la province. Celle-ci était représentée par le ministre près le gouverneur Jean-Pierre Kitwanga Nyembo, le gouverneur Zoé Kabila étant en mission. Je le disais en titre, carence des médecins au centre de santé de référence de Djoa, dans le territoire de Bolomba, situé à 255 km de Mbandaka. Le centre est aussi à cheval entre les chefs-lieux des provinces de l'Équateur et de la Chuapa. Avec ses 7 aires de santé et une population estimée à environ 15 000 habitants, ce centre de santé de référence ne compte qu'un médecin, lequel s'occupe à la fois de la gestion administrative et des soins des malades. À chaque fois qu'il se déplace, les malades sont abandonnés à leur triste sort, particulièrement ceux qui présentent des cas opératoires. D'où le cri d'alarme du relais communautaire de Djoa. Madame Pauline Bongonda Bikopo plaide auprès des autorités compétentes pour l'affectation d'un ou de deux autres médecins du gouvernement au centre de santé de référence. Il l'a dit au micro de Paul-Richard Malengela pendant son séjour dans la localité.
La plus grande difficulté que nous accueillons ici, c'est le manque de 2 médecins, de 20 médecins, de sorte qu'au déplacement de l'un, le deuxième reste à s'occuper des cas opératoires avec d'autres soins en son absence. Puisqu'à chaque sortie de l'unique médecin que nous avons, nous prions Dieu. Et s'il advient un autre cas après lui, il faut parcourir 43 km jusqu'à Bolomba. Alors sans l'appui de Dieu, le patient peut mourir en cours de route. C'est alors que nous plaidons auprès des autorités hiérarchiques afin de nous assister. Qu'elle ne nous délaisse pas. Nous avons d'autres difficultés, notamment pour la literie. Les dotations des hommes politiques et autres sont abîmées. Et si les chefs nous abandonnent, comment allons-nous nous en sortir? On n'a plus de bons lits. Il y a longtemps que l'OMS nous avait doté certains matelas, vous savez, avec les urines des malades et la mauvaise utilisation, sont également en mauvais état. Quand bien même nous continuons à les utiliser, ce n'est pas digne alors que nous sommes un centre de référence, surtout à la bifurcation entre Bolomba, Bouyende et Mbandaka.
Bolomba, Bouyende, Mbandaka.
Au Maniema, l'évêque du diocèse catholique de Kindu demande aux autorités à tous les niveaux de prendre leurs responsabilités, dont l'amélioration du bien-être de la population, particulièrement celle du territoire de Kailo. Ce message de l'évêque a été lancé après sa visite pastorale dans cette partie de la province au courant de cette semaine. Monseigneur François Abeli Muyoya s'exprime ainsi au regard de la misère dans laquelle vit cette population. Ce dernier ajoute aussi l'impraticabilité des routes sur le tronçon Kindu-Kailo Centre. Monseigneur François Abeli Muyoya, dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
On a comme l'impression que, en dehors de Kindu, la population n'est pas administrée. Il y a personne qui s'occupe du bien-être et de l'avenir de la population. À Kindu, on a comme l'impression qu'il y a un gouvernement provincial, il y a les autorités, et les choses marchent plus ou moins bien, mais quand vous venez, vous allez en dehors de Kindu, comme ici à Kailo, la situation est pire. C'est question de lire sur le visage de gens. Vous sentez que ces personnes n'ont pas de perspective, ces personnes n'ont pas d'avenir. J'invite donc les autorités provinciales, les autorités nationales à prendre en charge l'avenir de ce peuple. Parce qu'on a des preuves comme quoi il y a Foner qui est intervenu plusieurs fois et rien n'a été fait dans le cadre de la réhabilitation de la route. Il y a les redevances minières qui sont versées et payées et il n'y a rien qui est fait dans la réhabilitation de la route. Alors que si ces fonds étaient destinés à cette finalité-là, ici à Kailo, les gens vivraient mieux, les enfants étudieraient mieux, les gens se feraient bien soigner et la cité serait approvisionnée en produits de première nécessité.
Début la semaine dernière du trafic aérien Kinshasa-Lodja-Lubefu, déjà deux rotations viennent d'être organisées par l'agence chrétienne de Sankuru, ACS, en sigle, à l'aide des appareils de la compagnie Air Kasai. Le premier vol a quitté la capitale le 15 mars et a fait le routing Kinshasa-Lodja-Tchoumbe et le deuxième vol a eu lieu le lundi dernier. D'après Jean-Félix Opoto, propriétaire de cette agence, le but est de permettre aux habitants de Katakokombe, de Lubefu, Tchoumbe, bref de Sankuru profond, de voyager vers Kinshasa. Ça, sans beaucoup de peine. Jean-Félix Opoto s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
Commencé depuis 2015, on fait toujours Lodja. On a jugé bon pour faciliter nos frères qui sont à Katako, à Tchoumbe, à Lubefu, à Lusambu, pour commencer la destination de Tchoumbe. À partir du 15 mars, qu'on a commencé le vol régulier de Kinshasa Tchoumbe avec la compagnie Air Kasai. Le premier vol, on a pris à partir de Tchoumbe des passagers. Le deuxième vol, on a pris 7 passagers. Le troisième vol, ça sera après deux jours, comme aujourd'hui, c'est le jeudi. Après trois jours, on va faire un vol régulier à partir de Kinshasa Tchoumbe pour faciliter nos frères de Lubefu, de Katakokombe, de Lusambu. Parce qu'on a vu qu'il faut commencer à ouvrir notre tronçon de notre province du Sankuru parce que la province la plus compliquée de la RDC, c'est Sankuru. Chez nous, il n'y a rien. Chez nous, on ne fait rien. Le développement, c'est les opérateurs économiques qui commencent. On a vu que comme on ne fait rien, il faut commencer à faire des choses pour aider nos frères et soeurs du Sankuru, il n'y a pas à raisonner sur ça. Même des passagers, on va envoyer l'avion à Tchoumbe pour les chercher.
Au Nord Kivu, le prix des denrées alimentaires a pris de l'ascenseur à Kamandi-Guité, une agglomération située à la côte ouest du lac Édouard, au sud de Lubero. Il s'agit notamment des causettes de manioc, de l'huile de palme et du poisson. La société civile locale qui tire la sonnette d'alarme justifie cette situation par l'augmentation de la demande par rapport à l'offre due à l'arrivée massive des déplacés venus du territoire de Walikale. Il indique que la population vit un calvaire depuis maintenant deux semaines à Kamandi-Guité. Samy Sakoumi appelle les autorités compétentes à intervenir le plus tôt possible. Florida Kambou pour les détails.
La société civile de Kamandi rapporte qu'un bidon d'huile de palme de 20 litres qui s'est vendu entre 20 et 21 000 francs congolais se négocie aujourd'hui entre 49 et 50 000 francs. Cette denrée vient de Oicha dans le territoire de Beni à près de 200 km de Kamandi-Gite. Samy Sakoumi, président des forces vives locales, affirme que les cossettes de manioc produites localement n'arrivent plus à couvrir la demande. D'après lui, un sac de 100 kg qui se vendait à 20 000 francs se vend actuellement entre 40 et 45 000 francs congolais. Cependant, la hausse du prix du poisson frais est liée à la carence de la production sur les lacs Édouard, indique notre source. Un poisson frais d'un demi-kilo qui se vendait entre 1 000 et 1 500 francs congolais se négocie ces jours entre 3 et 4 000 francs congolais. La société civile de Kamandi-Gite dit avoir alerté l'administrateur de Lubero pour demander son implication afin de venir en aide à ses nécessiteux. Nos efforts pour avoir la réaction de Richard Niembo, administrateur de Lubero à ces sujets, n'ont pas abouti. Sachez que plus de 1400 ménages des déplacés internes venus du groupement Ikobo dans les territoires de Walikale ont été accueillis à Kamandi-Gite depuis deux semaines. Boutembo, Florida Kaambu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Gabon, l'égalité entre l'homme et la femme est en passe de franchir une nouvelle étape. Mardi 23 mars, le gouvernement a adopté un projet de loi modifiant le code civil. Cette modification vise à promouvoir l'égalité entre les sexes. Si le projet adopté par le gouvernement est approuvé par les deux chambres du Parlement, les Gabonaises vont gagner en autonomie et aussi en responsabilité. Un chef de guerre libyen recherché par la Cour pénale internationale a été abattu mercredi 24 mars à Benghazi, dans l'est du pays. Il s'agit de Mahmoud al-Dawerfi, membre des forces loyales au maréchal Kadhafi al-Fatah, homme fort de l'est libyen et chef de l'armée nationale libyenne. Al-Dawerfi était visé par deux mandats d'arrêt du CPI pour crimes de guerre.
L'invité.
L'invité de la rédaction aujourd'hui est la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a bouclé jeudi une visite de 24 heures dans la ville de Kananga, alors que la mission onusienne prépare son retrait de la région du Kasaï. Pour elle, il n'est pas question de dire que tout est terminé au 30 juin 2021, date de la fermeture du bureau de Kananga. La chef de la MONUSCO fait savoir que les composantes de la mission onusienne vont notamment continuer à appuyer le travail contre l'impunité dans cette région qui a connu des graves violations des droits de l'homme lors des violences de 2016 et 2017. Bintou Keïta est interrogée par Joël Bofengo.
Madame Bintou Keïta, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes au terme de votre visite de 24 heures à Kananga. La MONUSCO est en plein processus de retrait du Kasaï. Quel est l'état des lieux de ce processus?
Alors, dépendant à qui vous parlez, l'état des lieux prend des formes différentes. Pour ce qui concerne les autorités avec lesquelles j'ai parlé, il n'y a pas d'appréhension particulière sur le départ de la MONUSCO au 30 juin. Par contre, lorsque je me suis entretenu avec la société civile et plusieurs des partenaires qui accompagnent la province. Il y a une inquiétude en ce qui concerne la prise en charge complète des aspects sécuritaires, mais en tout cas une impression que avec le départ de la MONUSCO, ça sera très difficile d'être rassuré. Et en relation avec ça, il y a une demande très importante de faire en sorte que l'armée et la police, leur capacité soit renforcée et qu'ils puissent avoir les moyens de pouvoir véritablement répondre à la préoccupation des citoyens et notamment par rapport à la criminalité urbaine.
Est-ce que vous direz que la région est prête à accepter le retrait de la MONUSCO?
Si l'on prend les différents éléments, il y a une appréciation de rassurance de la présence de la MONUSCO, mais qui est une relation de dépendance. Donc, si on voit la province et les différents problèmes, les conflits intercommunautaires, la question de la stabilité politique, la question de l'insécurité, etc., etc. La question est-ce que c'est à la MONUSCO de faire tout cela ou est-ce que c'est à l'autorité de faire tout cela avec l'appui des partenaires? Donc la continuation du travail de l'appui de la MONUSCO va se faire avec, par exemple, sur les préoccupations de justice, avec la composante droits de l'homme et justice qui va rester ici, avec les agences, fonds et programmes. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas un retrait des Nations Unies des Kasaï. Et donc, tout le travail qui se fait, c'est de voir comment tous les projets qui sont mis en œuvre par la MONUSCO, par les agences fonds et programmes, par les autres partenaires, vont continuer d'accompagner la province.
En 2016 et en 2017, la région a fait face à des terribles violences. Des graves violations des droits de l'homme ont été commises ici. Est-ce que vous êtes assuré que le travail contre l'impunité va se poursuivre malgré le départ de la MONUSCO?
Le travail contre l'impunité se fait avec les composantes de droits de l'homme de la MONUSCO. Dans leur travail, appuie par exemple l'auditorat militaire qui est en train de faire du bon travail, appuie le barreau qui d'ailleurs, j'ai été très impressionnée par le travail d'assistance légale gratuite que fait le barreau ici puisque je les ai rencontrés hier. Ces composantes vont rester pour continuer à accompagner la province. On n'est pas en train de dire tout est terminé lorsque le 30 juin une partie de la MONUSCO s'en va des Kasaï.
Un dernier mot sur les questions de développement et de stabilisation de la région. Comment cela va s'organiser avec les agences des Nations Unies, les fonds qui vont rester ici?
Les agences, fonds et programmes sont déjà depuis l'année dernière en discussion avec les collègues de la MONUSCO, mais aussi avec des partenaires pour voir comment les projets qui ont été mis en place à petite échelle avec les des fonds de consolidation de la paix, par exemple, sur l'assistance aux victimes, sur justement l'appui aux barreaux, mais qu'il faut porter à l'échelle de manière à ce que véritablement la population sente une différence de taille sur le résultat et l'impact que ces projets ont dans l'accès aux services sociaux de base, un accès amélioré à la justice. Et il y a une attente particulière par rapport à la justice transitionnelle. Et il y a les besoins particuliers en ce qui concerne la sécurité alimentaire, l'amélioration de la nutrition, la santé, l'éducation, enfin tous ces aspects. Les agences font un programme, travaillent dessus, mais on va avoir besoin des donateurs pour continuer à appuyer tous ces projets et ces programmes. Et s'il y a un élément en termes de stabilisation qui est important, c'est le renforcement ou la réforme des secteurs de sécurité qui est importante parce qu'il faut accompagner l'armée et la police pour pouvoir délivrer le travail qui sont les leurs.
Madame Bintou Keïta, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.